Devine ce qu'il y a là-dedans.
C'est quelque chose pour moi?
Oui, c'est un disque.
Dites-moi, qui a eu l'idée d'acheter ce disque?
C'est moi.
Alors, change de disque, ok? Merde!
Fauché en plein rêve, frappé par le glaive de la sonnerie du réveil.
Qui c'est qui est tombé? Tout le monde t'en fout.
Mais qui vous demande de vous occuper des paroles?
C'est le fond sonore qui est agréable.
Tu contractes des mélodies, t'as la pièce caisse claire maladie. Tu vas sombrer dans la folie, car ce son tu c'est affolant.
Stup virus,
truc atroce, ça te laisse en connaissance. Ta liste Spotify infectée par la stup danse.
Attends. Bienvenue chez le disquaire.
Je vous propose aujourd'hui de vous conter l'histoire d'un des mouvements les plus importants de l'histoire du rock, apparu dans la jeunesse de ce genre musical, le rock psychédélique. Par où commencer? Peut-être tout simplement par définir ce qu'est le rock psychédélique. Ce mouvement musical est apparu en même temps que le mouvement hippie aux États-Unis au milieu des années 60. Et ils sont par conséquent intimement associés. Ce genre est caractérisé par une construction rythmique peu complexe et hypnotique, des mélodies répétitives et pénétrantes, des solos instrumentaux longs et tortueux, modelés d'effets sonores tels que la wah-wah, la distorsion ou le fuzz, le tout dans des morceaux généralement assez longs. On entend pour la première fois parler de rock psychédélique en 1966, avec le groupe 13th Floor Elevator et son premier album The Psychedelic Sound of the 13th Floor Elevator, qui peut être considéré comme un manifeste du rock psychédélique. Le vrai essor du rock psyché aura lieu l'année suivante avec le Summer of Love de 1967 à San Francisco et le Festival de Monterey. Ils joueront donc les 13th Floor Elevator, cités précédemment, et surtout les porte-étendards du rock psychédélique Jefferson Airplane et The Jimi Hendrix Experience. D'autres noms célèbres tels que The Mamas and the Papas, The Who ou encore Janis Joplin, à l'époque avec le groupe Big Brother and the Holding Company, seront aussi présents. Le festival aura donc marqué le début du Summer of Love et avec lui l'avènement de la culture hippie. Le mouvement ne tardera pas à s'exporter en Europe, notamment avec les Beatles, qui ont eux-mêmes recommandé Hendrix aux organisateurs du festival de Monterey, et le Pink Floyd et leur premier album The Piper at the Gates of Dawn. Remarquons tout de même que si le mouvement arrive en Europe après le Summer of Love, les précédentes productions des 4 garçons de Liverpool, à savoir Strawberry Fields Forever et surtout leur album Sgt. Pepper Lonely Hearts Club Band, dont nous avons déjà parlé précédemment, étaient déjà très expérimentales et typées psychédéliques. C'est 2 ans après le festival de Monterey que se tiendra un, si ce n'est le plus célèbre des festivals de musique qui n'ait jamais eu lieu, Woodstock, souvent considéré comme l'apothéose du mouvement hippie. Il y aurait beaucoup à dire sur ce festival, mais on n'a pas la journée, alors on va essayer de résumer. Alors tout d'abord, pour la programmation, on prend les mêmes et on recommence. On parle donc ici de Janis Joplin, Jimi Hendrix ou encore Jefferson Airplane. Oui, ça fait beaucoup de J tout ça, je sais, ne vous inquiétez pas, on y reviendra. Bien sûr, des petits nouveaux sont aussi de la partie. Les plus mémorables auront été Joe Cocker, qui aura repris With a Little Help from a Friend, des Beatles, encore eux, et qui réinterprétera le titre jusqu'à le faire sien. Un autre artiste à avoir décollé grâce à Woodstock, c'est Santana, qui monta sur scène avec les plus jeunes musiciens du festival, notamment Michael Shive, qui avait à l'époque 19 ans. Rappelons tout de même qu'à l'époque, la majorité était encore fixée à 21 ans. Au final, Santana livrera une des performances les plus mémorables du festival, et je ne résiste pas à l'envie de vous faire écouter une partie de sa prestation de Soul Sacrifice. Mais comme je l'ai dit précédemment, il y a beaucoup à dire à propos de Woodstock et je ne veux pas me limiter à la programmation. Alors je vous livre en vrac quelques anecdotes. Alors tout d'abord, il faut savoir que le festival était payant et que les organisateurs attendaient entre 50 et 100 000 festivaliers. Oups, c'est environ 500 000 personnes qui se présenteront au festival et les organisateurs seront obligés de le rendre gratuit. Cet afflux de festivaliers causera d'ailleurs ce qui est encore aujourd'hui le plus gros embouteillage de l'histoire des USA et une partie des artistes eux aussi coincés dans cet embouteillage ont dû être héliportés pour pouvoir assurer leur set. Les conditions météorologiques étaient elles aussi plutôt compliquées, entre la pluie et le vent qui ont non seulement rendu le sol boueux, mais ont aussi rendu la performance des Grateful Dead chaotique. Le bilan humain est lui plutôt positif, étant donné les conditions. Outre les nombreuses blessures, on dénombre 3 morts. Une appendicite, une overdose, mais aussi étonnamment un accident de tracteur. On peut aussi parler des 2 naissances ayant eu lieu sur le site du festival. Malheureusement, après ça, le mouvement hippie va péricliter et entraîner à sa suite le rock psychédélique. La mort des 4J, dans l'ordre Brian Jones, Jimi Hendrix, Janis Joplin et Jim Morrison. L'introduction du LSD en 1971 dans l'ensemble des États-Unis. Et surtout les meurtres de la Manson Family, qui se réclamaient du mouvement hippie, vont mettre fin aux idéaux de paix et d'amour dans cette communauté. Mais le rock reste quant à lui bien vivant. Et même si à ce moment de notre histoire, le mouvement psychédélique est en bien mauvais état, ses héritiers sont eux bien présents, avec par exemple le rock progressif du Pink Floyd ou le hard rock de Led Zeppelin, deux mouvements ayant émergé du psychédélique. Mais surtout, le genre n'est pas mort. Mais pour avoir la suite de cette histoire, il vous faudra attendre quelques années, mais surtout la prochaine chronique. Sur ce, je vous dis au revoir et rendez-vous au prochain épisode.